On va prier. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous entraînes vers toi, Seigneur, par ta parole, par ton esprit. Je te loue des merveilles que tu fais, Seigneur, parce que tu pourvois. On vient de l'entendre, Seigneur. Seigneur, tu regardes la détresse et tu pourvois. Seigneur, que ce matin tu puisses pourvoir par ton esprit, que tu puisses parler avec puissance, Seigneur, et que ma bouche se taise si ça vient de moi, Seigneur. Amen. J'ai eu à cœur de vous emmener dans un livre qui est, j'ai découvert qu'en fin de compte, on dit que c'est Paul qui l'a écrit, mais on n'est pas trop sûr, parce qu'apparemment, ça serait un auteur inconnu, c'est Hébreux. Et j'avais préparé une prédication, et ce matin, depuis ce matin, j'ai dans la tête le repos. Le repos. Mais bien aimé, ce matin, le Seigneur vous emmène dans son repos. Alors quand on sait ce que ça veut dire le repos, c'est simplement la vie éternelle. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que le Seigneur veut vous emmener dans son repos. Et on est peut-être découragé, ça va pas dans nos vies, on se sent pas bien par rapport à telle ou telle personne. Emmanuel nous a donné une très grande exhortation, c'est que Dieu s'en fiche de notre temps. Ce qui l'importe à lui, c'est son temps. Et les fruits vont venir en son temps. On va passer par plein de choses. Et donc, ce n'était pas du tout le texte que je devais vous lire, mais je voudrais commencer par « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Là, on parle du peuple juif. Et il y a tout le contexte du peuple qui est sorti du désert et qui a commencé à faire tout et n'importe quoi. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Ce matin, on est ici parce qu'on a entendu la parole de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien d'être à l'église. Ça ne sert à rien de s'asseoir sur une chaise si on n'a pas cette conviction que le Seigneur nous a appelés. Est-ce que, mes bien-aimés, on est conscient de ces choses ? Est-ce qu'on a conscience que Dieu nous a appelés, nous a mis à part ? Il faut savoir que l'auteur ici, en fin de compte, parle aux Hébreux parce qu'ils sont fraîchement convertis au christianisme et il y a encore plein de choses qui vont pas très bien. Et l'intérêt de l'auteur, c'est placer Christ au milieu de leur vie, au-dessus de tout ce qu'il y avait avant avec les lois et autres. C'était vraiment placer Christ, la gloire de Christ, l'œuvre de l'Esprit. Et j'aimerais vous emmener dans, c'est là où commence la prédication, ce que je vous ai lu avant, pardon, je ne vous l'ai pas dit, c'est chapitre 4, versets 1 à 3. C'est ce que m'avait mis particulièrement ce matin, toujours dans l'hébreu. Donc ici, on est en chapitre 6, à partir du verset 9. « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai et je bénirai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qu'il lui avait été promis. Il est souvent difficile de faire la différence entre un chrétien de nom et un chrétien régénéré. Mais en fin de compte, on ne voit pas de choses tangibles. Et ce qui est important, c'est au verset 17, par exemple. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. En fin de compte, tout le monde est héritier de la promesse à partir du moment où on est touché par la parole de Dieu. Et on est sauvé. On est sauvé. Bien sûr, vous allez voir que lorsque je dis ça, je dis pas ça à la légère. Ici, l'auteur dit ces choses pour stimuler le caractère réel de Christ dans le cœur de ceux à qui il s'adresse. Lorsqu'il dit des choses meilleures, mais quelles sont ces choses meilleures qui accompagnent leur salut? Quelles sont ces choses meilleures? Moi, j'en ai trouvé trois. On pourrait penser que c'est des choses extraordinaires, des miracles, des révélations. En fin de compte, on va commencer au verset 10. L'amour. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Lorsque l'esprit habite dans une personne, dans un croyant, il le transforme. Cette personne est transformée. Un fleuve d'eau vive arrosant les autres. C'est ce que Jean, chapitre 7, verset 38, nous dit. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Toute manifestation de l'amour maternel, et ce qui est incroyable parce qu'on fait encore référence à la dernière prédication d'Emmanuel, est comme la production des herbes utiles. Et ça, on voit ça au verset 7. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une terre utile à ceux pour qui elle est cultivée. L'image ici qui est donnée, c'est la parole de Dieu qui tombe sur le cœur du croyant. Quel effet a cette parole sur votre cœur? Parce que si elle a l'effet de l'épée, comme on lit dans la parole, qu'elle perce votre cœur, tout ce que vous allez faire viendra d'en haut. Plus rien ne sera humain. Les actions que vous allez faire seront fertilisées par l'Esprit qui vous habite. Il est inconcevable qu'un homme de la chair produise l'amour. C'est pas possible. L'amour réel ne vient que de l'esprit. Et lorsque quelqu'un est changé, quelqu'un est régénéré, c'est la première chose que l'on sent. L'amour, cette empathie pour l'autre. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait dit, si une personne offense, si une personne blesse, si une personne remplie d'amertume vient contre nous, l'amour passe au-dessus de tout. C'est 1 Corinthiens 13. Mais ça, ce n'est pas humain. Seul l'Esprit qui est en vous fera ces choses. Ce n'est pas possible autrement. Parce qu'on dit souvent, chassez le naturel et il revient au galop. Si vous produisez de l'amour charnel, vous allez voir que vous n'allez pas aller loin. Tandis que si l'amour est produit par l'Esprit qui est en vous, rien ne pourra arrêter cet amour. Et l'auteur ici insiste sur cet amour qui doit régner dans vos cœurs, dans le cœur du croyant. Et il donne en exergue, vous pourrez lire en Hébreux chapitre 10, on va y aller, verset 33. Je vais lire à partir du verset 32. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat, au milieu des souffrances, d'une part exposées comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. » Ici, on a affaire à des gens qui avaient été changés par la parole de Dieu, qui avaient aidé, qui avaient produit l'amour venant de l'esprit, et ils ont subi des épreuves pas possibles, des critiques, parce qu'au milieu d'eux, il y avait encore des gens, des judaïsants, comme on dit, qui leur restaient des soupçons de l'ancienne loi, et ils ont rencontré, mais alors, des épreuves pas possibles, et ils sont restés droits dans leurs bottes, parce que c'est l'esprit qui leur avait donné cet amour. Et on peut lire, il y a une autre circonstance, et ça c'est intéressant, j'ai voulu le souligner juste avant le millénium, c'est en fin de compte tout ce qui est les trois séances de tribunal. Parce qu'on dit souvent on est chrétien, on est sauvé, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on va passer devant le tribunal de Christ. Et pour les croyants, ceux qui sont réellement générés, en fin de compte, c'est ce que j'ai appelé, moi, la distribution des prix. Parce que Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Donc c'est en fin de compte, en fonction de nos œuvres, de notre réaction à la parole qui aurait été en nous, de cet esprit qui nous habite, on va être récompensé, les lauriers. En Romains, chapitre 14, verset 10 à 12, il est dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Il ne sera pas question d'aller chercher le pasteur de l'Église, l'ancien de l'Église, son époux, son frère, sa sœur, pour dire « Mais t'as vu, Seigneur, à ce moment-là, j'ai fait ça. » Non, non. C'est chacun, on aura à répondre pour nous-mêmes de nos actions. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 14. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Ce matin, j'ai envie de vous poser cette question, mais bien aimé, sur quoi est bâtie votre œuvre? Est-ce que vous travaillez pour Dieu ou est-ce que vous travaillez avec Dieu? Il y a une différence immense. Si vous travaillez pour Dieu, c'est de la gesticulation. Mais si vous travaillez avec Dieu, c'est que c'est l'Esprit qui vous fait travailler. Parce que c'est l'Esprit qui va vous guider dans tout ce que vous allez entreprendre. Et tout ce que vous allez entreprendre va subsister comme on vient de le lire. Parce que ces choses seront bâties sur le fondement de Christ. Tout ce qui est bâti sur le fondement humain ne recevra aucune récompense de Dieu. Et l'auteur a insisté sur ces trois faits parce qu'il voulait que ce soit Christ qui soit sur le cœur des Hébreux. 1 Corinthiens 4, chapitre 4, verset 5, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Comment on est au quotidien? Quand j'ai écrit ça, quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais comment moi je suis au quotidien. Est-ce que quand je m'assois ici le dimanche, je suis le même le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi? Est-ce que c'est une image ou est-ce que c'est réellement l'Esprit de Dieu qui est au quotidien avec moi? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre le moment où je suis assis dans l'église et le moment où je suis chez moi ou au milieu de mes amis. Est-ce qu'il y a une différence? Chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Quelle sera la louange que je vais recevoir de Dieu? Est-ce que ce sera un jugement ou est-ce que ce sera une louange? Le deuxième tribunal, c'est pour les vivants des nations avant le millénium. Et là, on voit, on ne va pas lire parce qu'il y a beaucoup de versets, pour ceux qui notent, en Matthieu 25, versets 31-46, « Les brebis sont ceux qui entrent dans le royaume établi sur la terre, les chèvres sont ceux qui sont jetés dans les tourments éternels. » Il y a une différence dans le troupeau. Il y a une différence. Les natures ne sont pas les mêmes. Le berger le sait. La brebis ne sait pas qu'il y a une chèvre à côté, puisqu'ils font partie du même troupeau. Mais le berger le sait. Et ailleurs, il est dit que le berger connaît ses brebis et il les appelle par leur nom. Est-ce que ce matin, le Seigneur nous appelle par notre nom? Ou est-ce qu'on est une chèvre? Le troisième tribunal, c'est le grand trône blanc, le plus terrible. En fin de compte, ça correspond au jugement des morts. Ceux qui n'ont pas la vie de Dieu. En Apocalypse, chapitre 20, là, il n'y a pas trop de versets. Alors, Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. » Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La question qu'on peut se poser quand j'avais étudié l'Apocalypse, je me posais cette question, sur quel livre je suis écrit? Abraham avait demandé à Dieu qu'on efface son nom, qu'on aille jusqu'à effacer son nom du livre. Est-ce que Dieu peut effacer notre nom? Mais revenons à l'amour. Matthieu, en 25-40, il dit « Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les faites. » Bien sûr, je pense que vous connaissez ce texte où les uns ils disaient « on a fait ceci, on a fait cela ». Et lorsque Jésus a répondu, il a dit « mais attendez, il y avait le pauvre qui était là à côté, vous ne l'avez pas aidé. Il y avait plein de gens, des malades, vous ne l'avez pas aidé. » Est-ce que notre cœur répond à l'esprit ou est-ce que c'est notre moi, on l'a entendu au travers d'Emmanuel. Est-ce que c'est notre moi qui nous fait faire les œuvres? Il y a une grande différence. C'est cette différence dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que je travaille avec Dieu ou est-ce que je travaille pour Dieu? Il n'y a que l'Esprit qui est en nous, qui est capable de nous donner cette empathie pour les pauvres. Cette empathie pour les petits. Moi, j'appelle pour les autres de la pitié. Et Dieu ne veut pas de la pitié. Dieu a de la compassion pour nous, mais il n'a pas de pitié. Parce qu'on vient de le lire, il y arrivera un moment où on va passer devant le trône en jugement. Dieu a de la compassion, mais il n'a pas de pitié. L'amour ne peut venir que de Dieu. Le reste, c'est des simagrées. En 1 Jean chapitre 4, verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Faites très attention si vous n'avez plus d'amour. Et là, je parle de toutes sortes d'amour. Si vous n'avez pas l'amour de vos voisins, si vous n'avez pas l'amour de votre conjoint, de votre conjointe, de vos enfants, de la personne qui passe et qui attend quelque chose de vous. La parole de Dieu vous le dit, c'est que vous n'êtes absolument pas de Dieu. Absolument pas. L'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si vous n'avez pas cet amour, si vous êtes enclin au jugement, aux critiques, à l'amertume, vous n'êtes pas de Dieu. Et je ne suis pas de Dieu si je suis dans ce cas-là. Dieu a honoré la famille de Stéphanas parce qu'elle s'est vouée au service des saints. On lit ça en 1 Corinthiens chapitre 16, versets 15 et 16. Elle a tout sacrifié, elle a tout donné. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. La famille de Stéphanas ne pouvait être guidée que par le Saint-Esprit. C'était des choses réelles. Elles ont fait des choses réelles. Les choses que l'on fait ne peuvent être réelles que si on a l'Esprit en nous, si on laisse agir l'Esprit en nous. Le deuxième point, c'est l'espérance, au verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez point ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent. Pardon, j'ai sauté une ligne. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Persévérer et demander à chacun, mes bien-aimés. C'est pas persévérer que le mardi, que le vendredi, que le dimanche. La persévérance, elle est quotidienne. Le zèle et l'énergie sont nécessaires à la persévérance. On a chacun déjà lu ces exhortations. Appliquons-nous, qui veut dire empressons-nous à entrer dans ce repos, on vient de le lire. En Hébreux 4, 11, « Et retenons ferme jusqu'au bout la ferme gloire de l'espérance. » L'espérance doit s'appuyer sur les promesses de Dieu. Est-ce que je suis persuadé que j'appartiens à Christ? Est-ce que je suis persuadé de cette vie éternelle? Est-ce que je n'ai aucun doute sur la vie éternelle? Il faut saisir ces choses avec une pleine assurance. L'espoir qu'on va donner va naître ainsi. Le fait de nous appliquer à la parole, le fait d'appliquer ce que l'on entend, le fait d'obéir. Et on a un souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et un jour, il va venir nous chercher. Au verset 10, Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Jésus connaît notre travail, il connaît exactement sur quoi on base notre vie. Vous savez, on peut tromper les hommes. On peut parfaitement tromper les hommes. On ne trompe pas Dieu. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Le troisième point, la foi. Les difficultés, les épreuves, tout ce qu'on traverse dans notre vie peut faire que on se relâche, qu'on est désabusé, qu'on doute. Et l'apôtre ici dit, ne devenez pas paresseux. Il faut nous emparer de toutes ces promesses par la foi. Parce qu'on a un héritage. La parole nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ. L'héritage, il est là. Est-ce que quelqu'un, si je fais l'expérience, a déjà pensé à la vie éternelle? Est-ce que, je vous laisse cette question, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la vie éternelle? Être dans la gloire de Dieu, en présence de Dieu, avec les louanges au quotidien. Apocalypse dit qu'il n'y aura plus de cris, plus de douleurs, plus de maladies. Nous serons revêtus d'un corps incorruptible dans la présence de Dieu. C'est sur ces choses qu'il faut baser notre foi et sur rien d'autre. Et si on lit le livre des Hébreux, on constate par exemple que l'auteur consacre un chapitre entier, le 11. Il consacre un chapitre entier à des hommes de foi pour montrer qu'ils ont espéré avec foi et patience sans que leur espérance se concrétise, c'est-à-dire que sans voir les fruits de leur foi. Pour vous montrer que peut-être qu'aujourd'hui on ne pense pas à la vie éternelle, peut-être qu'aujourd'hui on oublie peut-être les promesses de Dieu, mais pourtant l'œuvre est en vous, l'œuvre est en moi. Et on est appelé chacun à faire vivre cet esprit qui est en nous. Les Hébreux avaient la chance de pouvoir prendre en exemple leur père. Enfin, la chance, non. Ils avaient basé leur foi sur leur père. Mais aujourd'hui, nous, on peut mettre notre foi et notre confiance en un Christ, en un Messie qui est venu sur terre pour chacun d'entre nous, pour nous sauver. Et aujourd'hui, ben c'est ce Christ qui nous appelle à vivre dans la gloire. Vivre dans la gloire. C'est un peu cette image des fruits. Peut-être aujourd'hui, on ne voit pas les fruits qu'on produit. Mais peut-être qu'on ne les verra jamais. Et peut-être que dans 10 ans, quelqu'un viendra dans l'église et qui va nous dire ben, « Si vous aviez une dame et un monsieur... » Il s'appelait Christine Bernard. Elle s'appelait Jeannette. Il s'appelait José. Mais ils sont où? Ils sont partis avec le Seigneur. Et vous ne verrez peut-être jamais les fruits. Mais l'esprit qui est en vous aura marqué. Et c'est le plus important. C'est le plus important. C'est... Et j'en reviens à dire que c'est vraiment s'attacher aux choses de Dieu, s'attacher à la parole de Dieu. Vivre en appliquant la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut lire la parole, il faut méditer la parole. La parole est cette épée qui est capable de renverser tous les fondements. Il y a des grands scientifiques qui ont été bouleversés et qui témoignent qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible que l'équilibre des planètes soit fait d'une telle façon que c'est au millimètre près. Vous discutez, vous relisez des livres d'Hubert Reeve, il le dit. C'est pas possible que du désordre soit né un ordre parfait. Et c'est la même chose que Christ veut faire dans votre vie au travers de son esprit. Et il n'y a que la parole qui peut faire cette œuvre, qui va faire que l'amour sera l'amour qui vient d'en haut. La foi sera une foi à toute épreuve. Et à ce moment-là va naître l'espérance qui va faire que aujourd'hui même, même sur cette terre, vous approcherez la gloire de Dieu. Parce que Dieu, par son esprit, va vous témoigner qui il est. Est-ce que notre foi, je terminerai par ça, est-ce que notre foi s'appuie sur les promesses de Dieu ? Est-ce que nous connaissons bien Dieu ? Est-ce que notre foi de ce matin nous donne l'assurance du salut ? Ou est-ce que c'est ce que je fais ? C'est ce que je suis ? Ou est-ce que c'est vraiment l'esprit qui est en moi qui me témoigne que je suis enfant de Dieu ? Si ce matin on a du mal à discerner cette foi, cet amour, cette espérance, l'œuvre de Christ sur la croix, il faut se mettre devant Christ, mais vraiment devant Christ, et demander que l'Esprit qui est en nous, même si c'est un petit lumignon, que cet Esprit s'enflamme. Et alors vous verrez votre vie changer. Votre vie va être bouleversée. Vous aurez toujours ces épreuves, vous aurez toujours ces choses qui viennent enquiquiner. La seule différence, c'est que vous ne les traverserez plus seul. Et à un certain moment, c'est Christ qui va vous porter. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, Seigneur. Et Seigneur, que ce matin, tu puisses chacun nous attacher au fondement même de ta parole, l'œuvre de Christ et rien d'autre. Seigneur, si Christ s'est donné sur la croix, ce n'est pas parce qu'il avait de la pitié pour nous. C'est parce qu'il avait de l'amour, de la compassion. Il s'est sacrifié pour qu'aujourd'hui encore, nous puissions chacun entrer dans tes promesses. Que chacun nous puissions saisir par la foi et par l'esprit qui est en nous. L'œuvre de Christ. Seigneur, que ton esprit ce matin puisse révéler au cœur de ceux et celles qui ont des doutes l'œuvre de l'esprit. Seigneur, que ton esprit puisse saisir, puisse changer, puisse rendre parfait et que, Seigneur, rien d'humain ne puisse subsister dans nos cœurs, sinon que toi et toi seul. Amen.